Il a gagné le Super Bowl. Il a mis sa carrière sur pause pour venir aider au printemps durant cette crise de la pandémie dans le réseau de la santé, dans un centre de soins de longue durée. Il est de plus en plus actif et dans les prochains jours, vous le verrez à Télé-Québec, 26 février pour être plus précis, pour 10 soirs consécutifs avec Anaïs Favron et Patrice Bélanger pour accompagner les jeunes du Québec pendant la période de relâche scolaire. Laurent Duvernay-Tardif, bonjour.
Bon matin.
D'abord, expliquez-nous un peu quelle est l'idée derrière cette émission, puis qu'est-ce que vous allez faire?
Bien, écoutez, en fait, l'émission Sans relâche, l'idée est venue d'un conseil d'administration de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. En fait, évidemment, avec la pandémie, on ne peut pas aller à la rencontre des jeunes pour promouvoir l'activité physique et la création artistique. Donc, on s'est dit, au lieu de faire un virage numérique, pourquoi pas faire un virage télé en cette année très spéciale? Et puis, on a bâti, en fait, une émission qui s'inspire un peu des valeurs de la Fondation, soit la promotion de l'activité physique et de la création artistique. Et puis, en fait, c'est ça. C'est 10 épisodes qui vont être, durant la semaine de relâche, des épisodes de 30 minutes, où est-ce qu'on invite les jeunes, on leur donne des idées d'activités, des tutoriels scientifiques, culinaires, artistiques, sportifs. On reçoit en plus des invités, un par émission. Donc, ça s'annonce être du bonbon pour les jeunes qui vont en avoir besoin, je pense, puis aussi pour les inspirer, leur donner des idées de choses à faire sécuritaires à la maison.
OK. Donnez-moi quelques exemples de ce qu'on va voir dans ces tutoriels.
Exemple d'invités, Woody Belford, Marianne Saint-Gilet, qui viennent nous parler de leur parcours, la résilience dont ils ont dû faire preuve. En termes d'activités, des activités artistiques, on fait du land art en ramassant des objets en forêt pour ensuite construire une œuvre. On fait nos pigments nous-mêmes pour peinturer avec des ingrédients qu'on peut retrouver dans une cuisine. On fait du sport avec Marianne Saint-Gilles, comme je l'ai dit. Bref, ça roule assez vite. Je pense qu'on parle environ 5 à 6 activités différentes par émission.
Mais c'est vrai que ça arrive à un moment très particulier. Là, on a eu tout le débat, est-ce qu'on fait une semaine de relâche ou pas? Finalement, elle est là. On veut pas que les gens se déplacent, mais en même temps, on veut que les jeunes soient occupés. Qu'est-ce que vous avez à dire aux parents qui vous écoutent ce matin, puis aux jeunes, là, que ces 10 jours-là qui s'en viennent en gros de relâche, là, il faut mettre ça à profit?
Bien, il faut mettre ça à profit, mais aussi, il faut écouter les mesures de santé publique. On parle des variants, on parle du nombre de cas qui diminuent, mais qui pourraient réaugmenter. Je pense qu'on a besoin d'un petit moment pour souffler, mais en même temps, je pense qu'on a besoin d'être créatif dans nos choix d'activité. Puis c'est pour ça qu'on a mis cette émission-là en place. C'est vraiment pour inspirer les jeunes. Puis moi, je savais pas tout ce qu'on pouvait faire, sincèrement, dans notre maison, dans notre cuisine. Puis c'est ça qui est beau, d'une certaine façon, de cette émission-là. Donc, l'écouter, pas seulement pour les jeunes, mais aussi, je pense, pour les parents, puis ça peut donner des belles activités à faire en famille.
Quand vous dites, et avec raison, là, vous soulignez l'importance du respect des règles sanitaires, vous avez été sur le front, là. Vous savez ce que c'est, œuvrer dans un centre de soins de longue durée, puis l'équipement, puis comme... Pourriez-vous en témoigner de façon peut-être encore plus détaillée ce matin pour que ça soit davantage clair pour des gens là, qui n'ont pas eu de proches touchés ou qui ne connaissent pas les gens qui travaillent dans le réseau de la santé?
Bien, écoutez, moi, j'ai commencé à travailler il y a de cela pratiquement un an, je pense en avril dernier, à raison de seulement une à deux journées, des fois trois par semaine, dépendamment de la situation dans le centre où je travaillais. Puis ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est vraiment la quantité de sacrifices que les gens du réseau de santé font pour faire en sorte qu'on reste en santé. T'sais, les temps supplémentaires, les doubles corps de nuit, c'est fou de voir à quel point les gens sont dédiés dans le réseau de la santé. Puis on voit que quand on met ça avec, puis on le fait contraster avec la réalité, des fois des gens qui sont un peu tannés de ne pas pouvoir voir leurs proches, ben on dirait que c'est un peu la moindre des choses qu'on peut faire en tant que citoyen, je trouve, de faire ces petits sacrifices individuels-là dans le but de protéger notre réseau de santé, nos proches, nos personnes âgées. Donc, moi, en fait, ce que la pandémie me fait rendre compte en travaillant dans les CHSLD, c'est à quel point il y avait des gens qui étaient là pour vraiment porter le réseau de santé du haut de leurs mains. Donc, encore une fois, moi, je leur dis merci à ces gens-là.
Quand on est un professionnel comme vous, là, un médecin, je comprends qu'il faut garder une certaine distance avec les patients, mais est-ce qu'un moment arrive où cette distanciation-là est difficile parce que vous avez affaire à des gens qui sont des êtres humains, mais qui sont malades, qui sont vulnérables, qui sont hypothéqués? Comment vous conjuguez avec les patients?
Ben, en fait, la distanciation physique est assez facile à garder, je vous dirais, avec les jaquettes, les masques, les visières, les gants. ce qui est des fois plus difficile à garder, c'est la distanciation émotive, parce que quand on se met dans la perspective, dans la position de nos patients, on se rend compte que ces gens-là voient personne. Tu sais, des fois, ça fait plusieurs mois que les seuls contacts humains qu'ils ont, c'est avec nous, les gens les personnels de la santé. Donc, tu sais, de prendre le temps avec une population qui est extrêmement vulnérable et qui ne va pas nécessairement retourner à la maison, je crois que c'est ce qui fait la différence. On dirait que c'est ça que je me suis rendu compte à travers mon parcours là-bas aussi, c'est la différence entre traiter à tout prix puis prendre soin des gens. Donc oui, c'est difficile de pas trop s'investir dans des relations, mais en même temps, je pense que les patients ont besoin de ça en ce moment.
Et vous ressortez, c'est pas fini là, mais je dirais transformé de quelle façon d'une expérience comme celle-là?
Ben, moi, il n'y a pas aucun doute dans ma tête que mon expérience en CHSLD va faire de moi un meilleur médecin. On dirait que j'ai vu jusqu'à maintenant le côté étudiant en médecine à travers mes 6 dernières années dans le réseau de la santé. Puis là, on dirait que maintenant, je le vois d'un point de vue préposé aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, infirmières, parce que je travaille pas à titre de médecin en ce moment. Je pense que c'est important de le mentionner. Là, j'ai complété mon doctorat en médecine, mais j'ai pas encore commencé ma résidence. Donc, pour moi, je pouvais pas travailler à titre de médecin. Mais de voir cet autre point de vue-là, cette autre partie de l'équipe qui est tellement importante également, on dirait que j'ai appris beaucoup à travers ça. Puis comme je le disais tantôt, il y a comme aucun doute dans ma tête que ça va faire de moi un meilleur médecin.
Vous savez, vous avez pris la décision de faire cette pause dans votre carrière. Vous étiez obligé de faire ça, vous avez tenu à le faire. On a tous en mémoire ces images lors du Super Bowl, où, parmi tous les athlètes, vous avez été mis en évidence. On a vu le magazine Time. Bref, ces gestes-là, vous ne les posez pas pour augmenter votre notoriété ou vous rendre plus populaire. Vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Vous avez pris vous-même la décision de dire, là, je ne vais pas jouer au football, je vais sur le terrain pendant la pandémie.
Ben oui, en fait, puis c'est drôle que vous mentionnez ça, M. Arca, parce que quand j'ai pris la décision de ne pas jouer en juillet dernier, j'avais aucune idée comment ça allait être reçu dans les médias. T'sais, on le sait, aux États-Unis, le football, c'est le sport le plus vénéré. Puis de sentir que je laissais tomber mon équipe, c'était quelque chose qui était vraiment difficile pour moi à accepter. Puis après ça, ben, il y a aussi eu un long moment où est-ce que c'était le temps d'aller au travail. T'sais, c'était le temps d'aller prêter main forte une fois qu'on a annoncé notre décision. Donc, je pense que ça a été vraiment une année de haut et de bas. Puis oui, d'un point de vue médiatique, j'ai eu beaucoup de reconnaissance avec le Time, le Sports Illustrated, le Lou Marsh Award. Puis évidemment, mais je suis très honoré de recevoir ces prix-là. Mais encore une fois, je pense que les vrais héros de la pandémie, c'est pas moi. C'est pas moi qui est allé travailler 2 jours semaine. C'est les gens qui le font depuis les 20 dernières années. Donc, c'est important pour moi de leur lever mon chapeau puis d'accepter ces prix-là un peu en leur nom.
Mais vous êtes très conscient que vous inspirez beaucoup de gens, là. C'est-à-dire que vous représentez un modèle, que les gestes que vous posez, que vos actions sont quand même, ont un effet sur les autres.
C'est la question à laquelle je ne sais jamais trop quoi répondre. Tu sais, j'ai juste d'avoir 30 ans, fait que je pense que...
Mais dites-moi, à ce moment-là, qui sont les gens qui vous ont inspiré?
Écoutez, pour moi, c'est mes amis, je pense. C'est mon cercle rapproché de gens qui sont là depuis bien avant le football, qui sont un peu comme mon baromètre. C'est ceux qui me disent « Ah, Laurent, là, tu vas un peu trop loin. Ah, Laurent, on te connaissait comme étant légèrement différent avant, puis reviens sur la ligne droite. » Puis on dirait que ces gens-là m'inspirent beaucoup. Pas nécessairement pour l'ensemble de la personne, mais chacun a quelque chose que j'admire beaucoup. Puis quand on met ça ensemble, ça donne mon mentor.
Avez-vous hâte de recommencer à jouer au football?
Absolument, absolument. Spécialement avec les séries éliminatoires des derniers mois, le Super Bowl, évidemment, ça n'a pas été la tournure qu'on voulait. Mais ça m'a vraiment donné envie de retourner sur un terrain de foot. Quand j'ai pris la décision en juillet dernier, je me suis dit que j'avais encore du foot à gagner, mais c'est vraiment ça pour la raison pour laquelle je joue au football, c'est pour être sur un terrain devant 80 000 personnes qui gagnent en équipe.
J'imagine que votre club a hâte que vous reveniez.
Ah, ben là, ça, par contre, je m'en mêle pas trop, mais évidemment, il y a des points contractuels à régler, mais j'aimerais beaucoup faire part de l'alignement l'année prochaine.
OK. Puis entre-temps, ben, à partir du vendredi 26, vous allez faire bouger les jeunes, vous allez les occuper sur Télé-Québec avec Anaïs Favron et Patrice Bélanger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Ben, merci à vous.
Au revoir. Laurent Duverdier-Tardif, donc c'est à Télé-Québec 10 soirs consécutifs pour la période de relâche, c'est à 18h.